Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. Aujourd'hui, vendredi, pas de journal local et régional, mais une émission spéciale. À Digne, la Maison des adolescents des Alpes de Haute-Provence a organisé un colloque de prévention de la radicalisation des jeunes à destination de professionnels. Rappelons que la Maison des adolescents accueille et accompagne des jeunes aux problématiques multiples et parfois complexes qui préoccupent parents, professionnels et institutions en matière de conduite à risque. Certains jeunes en quête d'identité et en perte de repères peuvent se laisser séduire par un discours radical et entraîner à des extrémités dangereuses. Le phénomène de radicalisation, sujet sensible et porteur d'enjeux en matière de bien-être des jeunes, de sécurité et de vivre ensemble, nécessite une approche particulière et une information sur les causes, le contexte et les dispositifs existants pour permettre une approche adéquate et globale du phénomène, tant dans la compréhension et le repérage des situations que dans la prévention et les réponses à apporter. La semaine dernière, vous avez pu écouter l'interview de la coordinatrice de la Maison des adolescents. Nous vous proposons aujourd'hui, dans cette émission spéciale, d'écouter les interventions d'ouverture du colloque du préfet Bernard Guérin, puis vous entendrez l'inspecteur d'académie d'Aix-Marseille, Éric Lavis, et enfin le directeur de l'hôpital de Digne, Richard Lamouroux. Discours recueilli par notre collègue Odile Frison.
Vous savez, pour nous, aujourd'hui, la menace terroriste sur notre pays n'a jamais été à un aussi haut niveau, même si l'on compare avec ce qui s'est passé avant les attentats à Charlie Hebdo ou les attentats au Bataclan. Le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le chef des services de renseignement français ont eu l'occasion de le rappeler récemment. Le niveau de la menace est tel que nous sommes certains d'avoir un acte terroriste dans les jours ou dans les semaines à venir sur le territoire français. Et nous pensons qu'un événement comme l'Euro de football pourrait être une occasion pour ces groupes terroristes de se manifester. En plus, il y a une concurrence terrible entre ces groupes terroristes, entre Daesh, l'État islamique, et entre AGMI, ce qui subsiste après la mort de Ben Laden. Et donc la France est considérée comme un des pays les plus menacés aujourd'hui par ce groupe terroriste. Ce groupe terroriste, évidemment, s'est bâti sur des... Vous allez, au travers de la journée, avoir un certain nombre d'informations sur le sujet. C'est bâti sur des contestations, au départ, sur sunnites et chiites. Je pense que vous avez tous une certaine connaissance du monde musulman. Et donc, la différence qu'il y a entre la sunna, la doctrine, et le chiisme, la chia, qui est une faction et qui est dans une opposition irréductible entre ces deux groupes, que sont le chiisme et le sunnisme. Elle prend ses fondements sur les partages dans le golfe Persique, après les accords au début du XXe siècle, Sykes-Picot, qui ont permis un partage qui aujourd'hui fait que la guerre est livrée sur ce territoire, entre Raqqa, Mossoul, entre la Syrie, l'Irak, etc., des partages dans des frontières entre les puissances coloniales d'alors, du début du XXe siècle, entre la France et l'Angleterre. Et aujourd'hui, nous en subissons les conséquences, après l'occupation de l'Irak, l'occupation de la Libye, la destruction des... les régimes dictatoriaux qu'il y avait, et les conséquences que cela a sur la cohabitation entre sunnites et chiites, et le fait est que nous avons des répercussions dans notre pays, directement dans notre pays, sur une population vulnérable, quelle qu'elle soit. Et notre inquiétude aujourd'hui, c'est évidemment l'acte terroriste, celui qui, malgré que nos services de renseignement soient à l'action pour neutraliser ces groupes terroristes, il y a depuis un an et demi à peu près 3 tentatives qui ont pu être arrêtées et 15 projets d'attentats sur le territoire français qui ont pu être également arrêtés. Mais il n'empêche que nous sommes quasiment certains, malheureusement, que des actes terroristes vont avoir lieu dans les semaines ou les mois à venir sur le territoire français. Sur d'autres pays aussi d'ailleurs, occidentaux, mais entre autres sur la France. Ce qu'on vous demande, ce qu'on va aujourd'hui, à partir des travaux qui vont... donc s'organiser dans la journée autour d'un certain nombre de conférenciers, c'est pas de jouer les délateurs, c'est pas d'agir pour dire un tel, je le suspecte d'eux, c'est tout simplement de prendre conscience de cette menace et d'avoir véritablement dans votre champ d'action la capacité à agir pour essayer d'aider les personnes qui sont en souffrance dans notre pays et qui peuvent se livrer corps et âme, être sous l'emprise totale de ces groupes terroristes et qui, évidemment, arrivent de manière très astucieuse, très intelligente, à avoir sur un certain nombre de personnes fragiles, vulnérables de notre société, sur des gens qui sont dans la fracture sociale, sur lesquels nous n'avons pas eu de prise malgré toutes les politiques publiques que nous mettons en œuvre, sur ces personnes-là, avoir une certaine emprise, qui fait qu'en l'espace de quelques jours, de quelques semaines, un certain nombre de ces êtres vulnérables, jeunes pour la plupart, très jeunes même pour certains d'entre eux, certaines également d'entre eux, qui n'ont absolument eu jamais pour certains des liens avec l'islam, qui sont nés dans des familles d'autres religions, catholiques ou autres, qui brutalement, en l'espace de quelques jours, de quelques semaines, vont se radicaliser sans avoir une parfaite connaissance ni du Coran, ni de l'islam, ni en général, et qui vont se retrouver sous une emprise intellectuelle, morale, et qui peuvent donc venir prêter la main ou prêter leur corps quand ils deviennent kamikazes ou quand ils peuvent le devenir en tous les cas. Et ce sont sur ces personnes-là que nous avons effectivement, que vous avez, que nous aurons tous peut-être à agir, à essayer d'avoir une réponse par rapport à ce type de comportement. C'est ce qu'un certain nombre de conférenciers aujourd'hui vont vous expliquer à partir de la détection des signaux faibles sur ces personnes, etc. Je le disais tout à l'heure, ce que nous craignons, c'est l'acte terroriste, l'acte de mort, l'acte barbare qui fera que peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois, nous pleurerons un certain nombre de nos morts, dont peut-être nous-mêmes nous serons, nous ne savons pas, qui sera effectivement les prochaines victimes de ces actes terroristes. Mais ce qui nous inquiète aussi très fort, et je le dis très clairement tel que je le pense, il y a des journalistes, mais je souhaite avoir avec vous un discours de vérité, un discours de franchise. Ce que nous craignons, c'est que leur objectif, qui est de fracturer la société française, ne se réalise. C'est-à-dire qu'en fait, que des actes terroristes ne nous contraignent ou ne nous amènent à assimiler un terroriste à la religion musulmane, alors que c'est pas ça du tout, c'est une religion pacifique, c'est une religion comme toutes les autres religions, où on apprend à cohabiter, à vivre ensemble, à vivre, avoir un projet de vie, à poursuivre sa vie. Et non, eux, ils sont dans une logique de mort, dans une logique de ténèbres. Et cette logique de mort et cette logique de ténèbres, évidemment, peut provoquer chez nous le clivage de nos sociétés. Il serait vain de dire qu'il n'y a pas de fracture dans la société française. Il y a des fractures dans la société française, évidemment, plusieurs fractures. Mais ces fractures peuvent s'aggraver. Et il peut y avoir, de ce point de vue-là, pour nous, une véritable nécessité à faire que les actes terroristes ne se poursuivent pas par des rejets, par des ostracismes à l'égard d'une partie de la communauté nationale, et notamment une partie, cette partie pourrait être la communauté musulmane pacifique, qui pourrait évidemment être rejetée par une autre partie de la société qui se considérerait avoir été la plus ciblée. Les terroristes le disent d'ailleurs, ils le disent dans leur profession de foi, hein, ils osent affirmer que ce mois, aujourd'hui, qui débute du Ramadan, sera le mois de la mort, c'est-à-dire qu'en fait, ils porteront le fer contre les mécréants, que sont les personnes qui ne sont pas de la religion, et même contre ceux qui sont musulmans, parce qu'ils considèrent que les musulmans ne doivent pas vivre dans les pays occidentaux et doivent rejoindre les pays à dominante musulmane. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous, non seulement l'acte terroriste, mais également d'avoir identifié leur projet qui est de barbarie qui est de fracturer plus qu'elle ne l'est la société française, et c'est pour nous un des véritables enjeux. Alors ce qu'on va aujourd'hui vous dire à partir de quelques travaux, c'est comment, qu'est-ce que la radicalisation, on vous dira comment cette radicalisation peut s'exprimer, que c'est un phénomène pluriel qui affecte des individus isolés comme il affecte des groupes selon des idéologies diverses, que ça relève d'un processus d'emprise mentale qui trouve sa source dans l'environnement de l'individu, le plus souvent aujourd'hui par le biais de l'exposition à des contenus extrémistes qui sont diffusés sur Internet. Nous avons eu des cas où des personnes, en l'espace de quelques jours, de quelques petites semaines, se sont radicalisées sur Internet, et au bout de ces quelques jours, de ces quelques semaines, ont pris un couteau et ont tenté de trancher la gorge d'un militaire, parce qu'il y avait le symbole de l'uniforme, ou ont tenté de trancher la gorge de quelqu'un qui portait un symbole religieux, c'était à Marseille il y a encore quelques temps. Nous avons donc sur cette emprise mentale une action à mener, et c'est pour ça que nous comptons sur vous, c'est comment identifier ces ruptures de comportement, ses jugements, ses valeurs, ses sociabilités individuelles, familiales et collectives, et comment on peut essayer le plus tôt possible de traiter la personne, non pas de le dénoncer auprès des forces de police ou de gendarmerie, mais tenter de le traiter avec les moyens qui sont à notre disposition, qui peuvent nous permettre de traiter justement et d'essayer d'aller contre ce phénomène d'emprise et cette rupture qui est souvent le signe annonciateur de la marginalisation et donc de la radicalisation. Voilà, c'est tout ça que nos intervenants aujourd'hui vont tenter avec vous d'avoir comme rapport. Sachez que l'État que je représente dans le département des Alpes de Haute-Provence, évidemment nous sommes très présents en matière de renseignement, nous sommes très présents en matière également d'interpellation, de perquisition, etc. Mais ça c'est qu'un des volets, c'est probablement pas le volet essentiel de les politiques que nous pouvons mener. Bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, nous essayons de démanteler, d'arrêter, d'interpeller avant que les gens ne passent à l'action, mais nous avons bien avant cela, bien en amont, des personnes très fragiles qui aujourd'hui n'ont même pas conçu l'idée de commettre un acte terroriste, mais qui pourraient, si nous n'y prenons garde, le commettre demain. C'est un problème qui ne va pas être simplement sur une période de temps limitée, ça ne va pas se jouer sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, c'est sur plusieurs années. Ce phénomène est un phénomène qui est de longue haleine. C'est une guerre qui est menée contre notre civilisation, et cette guerre-là n'est pas faite pour cesser dans les 3 mois ou dans les 6 mois. Même si demain Daesh se retrouve affaibli après l'intervention internationale à Raqqa, elle se reportera sur la Libye. La Libye est encore plus proche que nous, ça nous posera encore d'autres problèmes. Et même si nous arrivions à l'éradiquer de ces régions du monde, ce n'est qu'un symptôme du mal, et ce symptôme-là, malheureusement, n'en est qu'un parmi d'autres. Voilà, nous avons de ce point de vue-là à travailler avec vous. Je ne vais pas être plus long, je voulais simplement vous alerter sur ce sujet-là, vous dire, parce que j'ai été longtemps sous-préfet à la ville, et je voudrais vous mettre à l'aise et vous parler très franchement. Je sais que c'est très compliqué, le secret partagé. Je sais que nous avons eu du mal dans le domaine de la politique de la ville à faire en sorte que les éducateurs échangent avec d'autres personnes qui ne sont pas du monde éducateur ou des assistants sociaux, notamment avec des intervenants policiers, considérant qu'il y avait une logique de délation, il y avait une logique de rupture de du secret professionnel. Soyez de ce point de vue-là beaucoup plus à l'aise sur ce sujet de la radicalisation. C'est une menace qui nous concerne tous, qui vous concerne, comme elle concerne tous les Français. Et de ce point de vue-là, le secret partagé, ça doit, à mon avis, il doit retrouver ses lettres de noblesse si nous n'arrivons pas, au moins en matière de sensibilisation, à avoir une approche commune des choses, à se rendre compte, c'est une vraie menace. Il ne s'agit pas non plus de basculer. Je respecte chacun d'entre vous, vos valeurs, vos principes de respect, de neutralité et autres, mais il n'empêche que là, c'est une vraie menace qui est sur notre pays, et c'est pour cela que je souhaitais avoir une interpellation un peu forte ce matin. Je vous remercie.
Nous allons à présent entendre l'intervention de l'inspecteur d'Académie d'Aix-Marseille, Éric Lavis.
Nous savons que certains jeunes, fragilisés par leur environnement, leur manque de regard critique et un fort déficit de repères, peuvent être sensibles aux doctrines qui prônent l'intolérance, la violence et la négation des valeurs de dignité et de respect de la personne humaine. Ces doctrines, souvent véhiculées par Internet, ne connaissent aucune limite dans leur objet, leur public et le périmètre de leur diffusion. Parce qu'il s'agit de jeunes, parce que dans les gènes du service public d'éducation sont inscrites les valeurs de la République et la laïcité, mais aussi parce qu'ils peuvent constituer des cibles, les écoles et établissements doivent nécessairement occuper une place éminente dans le dispositif de prévention. Sous l'autorité du recteur, l'éducation s'est engagée résolument en partenariat avec les autres services de l'État, avec le monde associatif et avec les collectivités territoriales. Maints exemples illustrent cette posture, en particulier la présence aujourd'hui d'un grand nombre de représentants de nos écoles, de nos établissements et de la DSDEN. Je vais en citer quelques-uns. La place renouvelée de l'enseignement moral et civique dans les programmes à tous les niveaux d'enseignement. L'ambition des apprentissages scolaires qui fait des connaissances acquises et des capacités de raisonnement les instruments privilégiés de l'émancipation collective et du progrès personnel. L'importance réaffirmée du devoir de mémoire pour mieux faire valoir que la force de ce qui nous rapproche est infiniment supérieure à ce qui nous distingue. Le réseau des personnels de santé, du service social et plus généralement l'ensemble des personnels des établissements qui est désormais mobilisé sur ses missions de repérage des processus d'emprise mentale. Les priorités nationales, académiques et départementales accordées à la qualité du vivre ensemble et au bien-être à l'école. Plus encore que par le passé, et pour se saisir résolument de ce qui est une des limites de notre système éducatif, nous voulons considérer, en même temps que l'élève, l'enfant et l'adolescent. Enfin, les actions de sensibilisation des chefs d'établissement et des personnels ont donné lieu à la mise à disposition d'outils pratiques tels que le guide national « Prévenir la radicalisation ». En même temps, parce qu'il faut aussi protéger, des protocoles d'alerte et de suivi précis ont été mis en place. La désignation d'un référent unique au sein de la DSDEN et la mise en œuvre de modes opératoires particulièrement réactifs et confiants en matière d'échange d'informations avec les autres services de l'État ont permis le traitement adapté d'informations référées au processus de radicalisation. Je veux souligner les relations très confiantes que j'ai personnellement avec Mme Duval, directrice des services du cabinet de M. le Préfet, qui nous permettent de communiquer en temps réel sur les signalements que nous recevons et au travers de M. le Préfet d'être en relation avec la gendarmerie, la police et les autres services de l'État. Les parents sont souvent associés à nos démarches, ce qui constitue un motif de satisfaction. L'an dernier, les Assises pour la promotion des valeurs de la République ont remarquablement témoigné de la solidarité et de l'engagement d'un large éventail d'acteurs dans et autour de l'école. Le colloque de ce jour en constitue un prolongement dont il faut assurément se féliciter. Il exprime la volonté partagée de prévenir plus que de réprimer, de situer les enjeux sur le plan de la protection de l'enfance et non pas sur celui de la stigmatisation ou de l'exclusion, et surtout d'agir de concert pour que la mutualisation de nos compétences et de nos ressources produise le plus rapidement possible les effets bénéfiques qui permettront d'éloigner les menaces et de favoriser sans cesse le bien vivre ensemble.
Et pour finir, c'est l'intervention de Richard Lamouroux, directeur de l'hôpital de Digne, que nous vous proposons d'écouter.
Monsieur Lamouroux, directeur délégué du centre hospitalier de Digne.
Je suis très heureux de me retrouver devant vous aujourd'hui parce qu'effectivement, ça n'allait pas de soi, en tout cas pour ce qui me concerne. On parle souvent de l'hôpital comme un lieu de professionnels de soins, pas forcément comme un lieu de prévention. C'est vrai que quand on traite d'événements de radicalisation à l'hôpital, on voit plutôt les ambulances, le SAMU, les soins. On ne pense pas, en tout cas, quand l'équipe de la MDA est venue me présenter le projet, je me suis demandé qu'est-ce que l'hôpital pouvait apporter à ce type de projet. Et puis, effectivement, l'hôpital, ça n'est pas que des services de soins, c'est aussi des services ambulatoires dans tout le département. Et effectivement, les MDA, jouent, les maisons départementales des adolescents, jouent un rôle très particulier, au sein de l'hôpital, mais aussi sur le territoire. Vous savez que donc, c'est une structure qui est financée à la fois par l'État et par le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur, qui multiplie les antennes. cette couverture territoriale est fondamentale, parce qu'effectivement, maintenant, les antennes sont sur Manosque, sur Digne, sur Riez, sur Sisteron, sur Barcelonnette. Donc cette couverture territoriale nous permet d'avoir un accès à l'ensemble du secteur, parce qu'effectivement, je crois que les intervenants le précisaient, le phénomène de radicalisation, il touche toute la France, tous les secteurs, même si nous ne l'avons pas dans le département, des secteurs, des quartiers, des villes particulièrement sensibles ou touchées. On se rend compte, toutes les familles qui y sont confrontées le racontent, on sent parfois pas le coup venir, c'est pas forcément à l'endroit où on l'avait attendu que les choses se produisent, d'où la nécessité d'être vigilant sur l'ensemble du territoire et pour ce qui nous concerne sur notre département. Et c'est vrai que le réseau des maisons départementales des adolescents offre un lieu d'écoute qui, encore une fois, garantit une couverture géographique importante, un lieu d'écoute pour les ados, qui sont quand même les publics les plus sensibles, les plus fragiles pour ce type de phénomène, offre aussi un lieu d'écoute pour les parents, ensemble ou pas ensemble. Du coup, ces lieux bien répartis et ouverts peuvent être effectivement un lieu de détection, de sensibilisation et de détection de tous les phénomènes qui peuvent commencer à apparaître. Je profite également de ce colloque pour me féliciter et féliciter les équipes qui le portent au quotidien sur le travail en réseau. C'est vrai qu'encore une fois, si nous sommes un département très vaste géographiquement et pas toujours très, très peuplé, donc ce qui impose derrière un travail en réseau très dense, puisque les moyens sont pas dans tous les services ne sont pas toujours, très importants. Et ce travail en réseau-là, il fonctionne, pour l'avoir constaté. Et c'est sûrement la clé de la réussite pour tout ce travail-là de prévention, de détection de tout ce qui est radicalisation. Alors c'est vrai, ce réseau, il existe avec les services de l'État. Je pense qu'effectivement, que ce soit autour des services de la préfecture, des forces de l'ordre, de l'éducation nationale, de la protection judiciaire de la jeunesse, j'en oublie sûrement d'autres. Il est fondamental également avec les services municipaux. La maison départementale des adolescents que nous avons ouvert à Sisteron, elle se fait en partenariat avec les collectivités. Et il est bien sûr fondamental avec tout le secteur associatif et le conseil général qui participe, qui assure des permanences dans ces locaux. J'espère que cette contribution, qui encore une fois nous permettra de travailler ensemble sur ce phénomène-là, avec un point particulier, je pense que M. le Préfet l'a souligné, moi qui suis un ancien directeur de DAS, j'ai été confronté aussi à ces questions de secret. À l'hôpital, on est loin d'être épargné par les questions de secret. On sait bien que le secret médical, le secret du social, le secret des forces de l'ordre, chacun a beaucoup d'arguments pour expliquer que son secret est plus important que celui du voisin. On arrive là sur des phénomènes où tout doit être mis à plat. Et il faut bien, chacun dans nos pratiques, que nous sachions que les phénomènes sont graves et dangereux. On le voit malheureusement dans l'activité et que cette question-là doit être vraiment travaillée et partagée de façon collective. Écoutez, je m'arrête là parce que je crois que le timing est très serré. Je vous remercie en tout cas de cette participation. J'espère que ce colloque-là sera très instructif pour vous et pour moi et que ça sera l'occasion de progresser pour que nos jeunes, encore une fois, dans le département, trouvent tous leur place dans de bonnes conditions et encore une fois qu'on puisse éviter ces phénomènes-là qui sont dramatiques. Merci à tous.
C'est la fin de notre émission spéciale dédiée à la radicalisation des jeunes et comment la prévenir. Et vous le voyez, ça passe par la prévention, l'importance de cet outil et de tous ces acteurs sur le terrain qui vont à la rencontre des jeunes et qui leur permettent de sortir de cette tendance, de ce chemin de la radicalisation afin de retrouver une société plus égalitaire et donc plus ouverte. Voilà l'importance de ce combat pour éviter tout amalgame entre terrorisme, musulmans, pour que notre société évolue dans le bon sens. L'importance de cette prévention de la radicalisation, je l'espère, ne vous a pas échappé en écoutant cette émission spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente journée en écoutant Fréquence Mistral, bien évidemment. Me, I appreciate you, baby.
I can feel you.